Donc on prend le Shelishi de la Parasha Shemini. Donc c'est la page 269. En fait, j'avais prévu autre chose, mais à la demande de Yonel, et surtout comme le cours est dédié à son grand-père, j'ai pris un autre sujet, qui m'a posé la question ce matin. Voilà. Alors, on va parler de l'histoire de Nadav et Avihu. On va s'arrêter sur le commentaire du très connu du Or HaChaim HaKadosh sur cette histoire. Et on va essayer de commenter ensemble et d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce qui s'est passé finalement était positif ou négatif? Alors d'abord, on va lire ensemble les versets. Sans faire Rashi. D'accord? On va lire ensemble les versets dans la Parasha Shemini et dans la Parasha Acharemot. Les versets dans la Torah tels qu'on les comprend selon le Pshat. Et après, on va voir comment Rashi a compris ça. Et on va essayer de comprendre ce que Rashi veut dire. Donc déjà, on nous raconte au début donc du Shelishi, Vatetzesh Milfine Hashem. Le problème qu'on avait à ce moment-là, Vayi Vayam Hashemini, c'est qu'on était déjà au 8e jour de l'inauguration du Mishkan. On était Rosh Chodesh Nissan, selon l'avis de Rashi. Et le problème qu'on avait à ce moment-là, Shelishi de Shemini, le problème qu'on avait, c'est que le feu n'était toujours pas descendu du ciel. Or, le feu qui descendait du ciel, c'était un signe pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu avait accepté nos sacrifices. Et là, l'enjeu était de taille, puisque le Mishkan était censé pardonner les Averot d'Ebné Israël, et plus particulièrement la faute qu'il venait de faire quelques mois auparavant, presque un an auparavant, la faute du Vaudor. Faute du Vaudor qu'on a fait quelques temps auparavant, donc c'était un vrai problème. Puisque le feu ne descendait pas du ciel, ça voulait dire Chas v'Shalom, que Akadosh Baruch Hu n'accepte pas notre pardon. Et donc on a fait comme ça pendant 7 jours. 7 jours, tous les jours, on a monté le Mishkan, démonté le Mishkan, et à chaque fois on essayait, chaque fois le feu ne descendait pas du ciel. Qui était le Kohen de service? Moshe Rabbeinu, exceptionnellement. Et avec ça, le feu ne descendait pas du ciel. Donc on était très embêtés, on ne savait pas quoi faire. Et le 8e jour, qui c'est qui a pris les commandes? C'est Aaron. C'est Moshe Rabbeinu qui a eu l'initiative, qui a dit, bon, peut-être qu'il y a des gens qui m'en veulent à moi. Mon frère Aaron, lui, il est plus... les gens l'aiment un peu plus, parce que c'est quelqu'un qui fait le shalom entre les gens. Donc peut-être que c'est lui qui doit être le Kohen de service. Et il l'a nommé le 8e jour. Et c'est là qu'on nous raconte, c'est là que commence le Shlishi. Va tetzesh milifne Hashem, le feu est sorti du ciel, va tochal à la misver, elle a consumé sur l'autel, et aola, va tachalavim, l'holocauste, va tachalavim, ainsi que les graisses, va yar kolam, va yaronou, tout le peuple l'a vu. Si vous voulez, c'est le chumash comme ça, le chumash. Va yar kolam, va yaronou, tout le peuple a vu ça, et bien sûr, ils se sont réjouis, comme Rina, va ypelou al penehem, et donc, ils se sont, pratiquement prosternés pour remercier Akadosh Baruch. Donc c'est important pour moi de dire ce premier verset. Pourquoi? Parce que là dans ce premier verset on comprend que qui est la star de l'histoire maintenant?
Aaron.
C'est Aaron, celui qui a sauvé la mise. On était vraiment bloqué. Même Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à faire descendre le feu. Qui a réussi? Aaron. Et là malheureusement, qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a un épisode qui, quand on le lit dans le sens simple de la Torah, apparemment c'est un épisode qui est très négatif. Qui va se passer bien sûr avec qui? Pas avec Aaron, avec ses enfants. Avec ce qui est de plus cher pour Aaron, avec ses enfants. Donc Aaron, qui était la star, va se retrouver en plein milieu d'une histoire qu'il ne comprend pas comment elle lui tombe dessus. Alors écoutez bien l'histoire. Donc c'est Perek Yud, juste après. Vaikrouv ne Aaron, Nadav et Avihu ish martato. On prit Nadav et Avihu, donc les deux enfants de Aaron, on prit chacun ish martato. Chacun s'appelle. C'est comme une sorte de pelle pour prendre les kétorettes. Là, l'encensoir, d'accord. Donc c'est comme une sorte de petite pelle. Vaïtenu vaen esh. Donc comment ça marchait dans cette pelle? On mettait un peu de braise, de feu, et dessus on rajoutait une poudre de kétorettes, une poudre d'encens, et ça faisait une très bonne odeur. Donc, vaïtenu vaen esh, ils ont mis dans cet encensoir esh, le feu, du feu, donc ça veut dire des braises. Vayasimu alea ketoret, et ils ont mis dessus la poudre de ketoret, qu'on a pu étudier ensemble dans le cours sur la tefila. Vayakrivu lifne Hashem, ils ont fait un sacrifice devant Dieu, esh zara, un feu étranger, asher lotziva otam, un feu sur lequel on ne leur a pas donné l'ordre. Donc on leur a rien demandé, ils ont fait quelque chose qu'on leur a rien demandé. Donc a priori c'est négatif ce qui s'est passé. Vatetse esh milifne Hashem. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est sorti de devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui est sorti, ils étaient dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. Il y a un feu qui est sorti de là-bas, va tochalotam, un feu qui les a consumés. Ils sont rentrés avec un feu interdit, ils ont été brûlés par le feu, va yamutu lifne Hashem, et ils sont morts. Comment on comprend là pour l'instant? Bah, apparemment, ils sont rentrés dans une zone interdite, on n'a pas eu le choix, on a tiré. D'accord? C'est ce qu'on comprend là.
Ouais. Bon.
Attendez, pasuk gimel. C'est là que ça commence à compliquer. Vayomer Moshe el Aaron, Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, son frère, donc son frère qui vient de passer du stade de la star, celui qui vient de perdre ses deux enfants, c'est, il est souffrant. Donc il lui a dit, Moshe Rabbeinu dit à son frère Aaron, il lui dit, Où Asher Diber Hashem les morts, c'est ce que Hashem m'a dit. Lorsqu'il m'avait prévenu, il m'avait dit, Bikrovay et Kadesh, je me sanctifierai par ceux qui me sont proches. Ça veut dire en d'autres termes, tes enfants sont un sacrifice. Donc là apparemment c'est plus négatif. Ve'al pene kolam et kaved, d'accord? Et donc même si ça sera dur pour le peuple, mais quelque part, comme Rashi va expliquer, Akadosh Baruch Hu dit que je me sanctifie par mes tzadikim. Vaidom à Aaron, et Aaron, lorsqu'il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Vaidom, il s'est tué. Il s'est tué, ça veut dire qu'il a compris qu'il y a des fois où c'est mieux de ne pas parler. C'est mieux de ne pas parler, que des fois la réponse se trouve dans le silence. D'accord? D'ailleurs, quand on va voir des gens qui ont perdu du président des proches, des fois la meilleure réponse, les meilleurs mots peuvent être dans le silence. Bon. Donc vous voyez qu'il y a une tournure dans l'histoire là. Il y a quelque chose de bizarre qui vient de se passer. Et qu'au début, on nous dit que Nadav et Avihu ont pris un feu qui était interdit. Que Dieu ne leur a pas ordonné. Et qu'à cause de ça, ils sont morts apparemment. Après, Moshe Rabbeinu vient voir Aaron, et il lui dit, tu sais, c'est ce que Dieu avait dit, qu'il se sanctifie par ceux qui sont proches. Alors vous allez peut-être me dire, oui, Moshe Rabbeinu, il n'a pas le choix, c'est son frère, quand on va consoler quelqu'un, on va peut-être, excusez-moi du terme, mitonner un petit peu. Ça, on n'accepte pas cette réponse. Si vous avez pensé à cette réponse, enlevez-la tout de suite de votre tête, ça n'existe pas. Moshe Rabbeinu ne raconte pas du pipeau pour essayer de consoler son frère. C'est pas, il lui dit, en vérité, il pense que ce qui s'est passé, c'est pas bien, mais pour consoler son frère, il va lui dire, écoute, tes enfants, c'est les tzadikim. Ça n'existe pas chez nous. Si Moshe Rabbeinu le dit, ça veut dire qu'il le pense. Et c'est pour ça que Rashi. Ah mais ça s'est passé trop vite. Il n'a pas eu le temps de réagir, ils sont rentrés, pas tout de suite, ils sont morts. D'accord, ils n'ont pas eu le temps de réagir, personne n'a eu le temps de réagir.
Ils avaient quel âge?
Je sais pas, bonne question, je sais pas. On a décrit dans le Midrash. Ils étaient célibataires, je sais, mais quel âge ils avaient, je sais pas. Je sais pas, je pense vers 20, 30, je sais pas, j'ai pas envie de donner d'estimation.
Ils avaient 82 ans, hein.
Oui, mais bon, à cette époque-là...
D'avoir un enfant de l'âge de 20 ans...
Bonne question, je sais pas. Il avait d'autres enfants, déjà.
Oui.
D'accord. Alors, on continue. Donc là, apparemment, on aimerait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je voudrais juste lire encore quelques versets dans la Parasha Haremot, et après on va faire le commentaire de Rashi ensemble, et on va développer. On va prendre la Parasha Haremot, c'est page 289. Gardez votre doigt sur la page où on est. Page 289. Vaidaber Hashem el Moshe, Dieu a parlé à Moshe, Acharemot Shene Bene Aaron, après la mort des enfants de Aaron. Sous-entendu, après le casse, quoi, maintenant on va prendre les conclusions de ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont morts? Bekor Vatam Lifne Hashem, ils sont morts en s'approchant de Dieu, Vayamutu, et ils sont morts à cause de ça. Alors c'est quoi les conclusions qu'on a tirées? Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Daber el Aaron achicha, parle à Aaron ton frère, préviens-le, mets-le en garde. Ve al yavo becholet el kodesh, qui ne rentre pas n'importe quand el kodesh. Donc de là on comprend que jusqu'à présent, est-ce qu'on pouvait rentrer ou on pouvait pas rentrer? Qu'est-ce que je viens de dire? Il vient de dire, parle à Aaron, après la mort, d'accord, qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Il dit, parle à Aaron ton frère, et dis-lui que dorénavant, on ne pourra pas rentrer quand on veut à la Kodesh, dans le Kodesh à Kodesh. Ça veut dire qu'avant on pouvait. Donc ça veut dire que, là déjà on a une circonstance atténuante pour les enfants de Aaron.
Ils avaient l'habitude.
Ils savaient pas et qu'ils sont partis d'une bonne intention. D'accord? D'accord. Donc, Va'aliavo Bechol Et, donc après il donne la description de l'endroit. Donc, El Akodesh, Mi Bet la Parochet derrière le rideau, c'est le Kodesh Akodashim. El Pene Akaporet à côté, donc du Kaporet, ça veut dire c'est l'Arche Sainte. Asher à la Aaron, donc le caporet c'est les chérubins qui se trouvent sur le Aaron, sur l'arche sainte, Velo Yamut, et comme ça il ne mourra pas. Ça c'est la première restriction, la première conclusion. Deuxième conclusion qu'on va tirer par la suite, c'est qu'on va nous demander de de ne pas rentrer, de ne jamais servir quand on est Kohen, quand on est sous.
En fait, c'est pour les Kohanim, cette mise en garde.
Oui.
Avant les Kohanim, rentrer et sortir.
Ah, pas. J'ai pas dit ça, mais à part, c'est ce qu'on comprend, sous-entendu.
Voilà. Mais après, maintenant, les Kohanim aussi rentrent pas comme
ça. Ils rentrent pas comme ça. D'accord. D'accord. Il s'est passé que 7 jours, oui. C'est vrai qu'on a Shemini, Tazria, Metzora, on a vu des tas de choses au milieu, mais il s'est passé que 7 jours. Deuxième restriction qu'on nous demande aussi, c'est de ne pas rentrer au Beth Amikdash, de ne pas rentrer, de ne pas servir en général, sous, ivre. D'accord? On n'a pas le droit. Ça. On avait? Vous savez, à l'époque, il y avait une époque où on buvait, je sais pas comment c'était à l'époque, mais il y avait une époque où on buvait plus de vin que d'eau. Je sais pas si vous savez, pas si longtemps, on buvait plus de vin que d'eau.
Jusqu'à maintenant, toi,
c'est
pas
si
longtemps que tu buvais
plus de vin
que d'eau.
Oui, c'est
sûr.
Mais dans les familles françaises, on boit que de vin.
Du verre en plastique.
C'est une des raisons pour lesquelles, enfin, des rattachés, on fera une fois un cours sur ça. Toute l'histoire du Yayin Nesser, pourquoi on interdit le vin des goyim dans les soudottes, etc. C'est parce qu'à l'époque, dans un repas standard, on prenait pas d'eau. Il suffisait du vin. Il y avait du vin, c'est tout. Le vin était peut-être coupé, etc. Mais on prenait du vin. Genre, voilà, c'est comme le coca. Vous avez des gens aujourd'hui qui boivent pas d'eau. Ils boivent que du coca. Par exemple, peut-être... C'est un délai. Bon. Alors, on reprend maintenant la paracha chez Mini. Et c'est là qu'on va faire Rashi. Là, ça va compliquer un petit peu. Donc, on reprend la page 269. D'accord? On reprend la page 269. Et donc, on est au pasouk Rashi Bet. Donc, deuxième ligne, colonne de droite. Deuxième ligne, colonne de droite, dans Rashi. Vatet Sehesh. Donc déjà, Rachid nous amène une marloquette. Vatet Sehesh, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Shelom et Toubne Aaron, les enfants de Aaron sont morts, et la Aliédé, Shiorou, Alaha, Bifne Moshe Rabban. Que la vraie raison pour laquelle les enfants de Aaron sont morts, c'est parce qu'ils ont enseigné une Alaha devant Moshe leur maître. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu apparemment avait une Alaha, certaine Alaha qu'il ne connaissait pas. Et les enfants de Aaron ont enseigné une halakha devant Moshe, c'était un manque de respect.
Mais à quel moment?
D'accord. Attends, une seconde. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael il dit, Shtouye Yain, Nichnesu le Mikdash. Qu'en vérité, la vraie raison pour laquelle ils sont morts, c'est parce qu'ils étaient sous. Alors, comme expliquent les Mefarshim, qu'en vérité, tout ça était vrai. Ça veut dire que les enfants de Aaron ont enseigné une halakha alors qu'ils étaient devant Moshe Rabbeinu, et ils étaient également sous. Sauf que la raison qu'on veut comprendre, nous, c'est pourquoi ils sont morts. Qu'est-ce qui a déclenché la mort? D'accord? Alors très bien. Rashi apparemment il va chercher autre chose.
Oui, mais parce qu'ils étaient bourrés qu'ils ont mis un feu étranger.
Mais attendez. Rashi, on a lu ensemble le verset. Le verset a dit, ils sont venus avec un feu étranger qu'on ne leur a pas ordonné.
D'accord.
Donc a priori, c'est évident que pour ça, ils sont morts. Rashi vient te dire, non, attention. Marloquette. Pourquoi ils sont morts? Deux avis. Aucun des deux avis ne va me dire ce que le verset a dit. Premier avis, c'est parce qu'ils enseignaient une halakha devant Moshe Rabbeinu leur maître. Bon. Qu'on n'a pas le droit d'enseigner une halakha devant son maître. Deuxième raison, c'est un manque de respect. Deuxième raison, nous dit Rashi, c'est parce qu'ils sont rentrés, ils étaient sous.
Je comprends pas.
D'accord.
Ce rapport.
Quel rapport hein? D'accord. Oui. Tout Rashi, il sort ça. Attendez, c'est pas fini. On passe au Rashi Gimel. On passe au Rashi Gimel. Donc, vous prenez la sixième ligne. C'est là que je vous dis que vraiment, ça complique les choses. Et qu'après, Bezrat Hashem, on aura le commentaire du Or Haïm Akadosh qui nous explique. Parce que sinon, honnêtement, on est dans le flou. D'accord. Là, j'ai rien compris. La Torah nous a dit un feu étranger. Rashi vient te dire non parce qu'ils ont enseigné devant leur maître, parce qu'ils sont rentrés sous. Mais c'est pas écrit tout ça. Quand tu vas chercher les choses, sont pas écrites. Aucune des deux raisons n'est écrite.
Après, c'est quoi un feu étranger?
Le verset a dit un feu étranger. Pourquoi il est étranger? Parce qu'on ne leur a pas ordonné.
Non, mais c'est quoi un feu étranger?
C'est la Ketoret. Dans la Ketoret, c'est du feu.
Ouais.
Et des brèves. Vous avez un feu qui n'a pas été commandé. Le verset l'a dit, non? C'est explicite. Hey, non, vous voyez pourquoi j'ai voulu dans la paracha aussi, les versets dans la paracha Shemini et dans la paracha Harim. Alors attendez, c'est pas fini. Attendez, on va lire ensemble Rashi Gimel. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ou Asher Diber. Ou Asher Diber Hachem les morts. Donc Rashi nous dit, donc je suis à la sixième ligne de Rashi, colonne de droite toujours. Echan Diber. Veno ati shama lifne Israël venir d'Ashbir Vodi. Que dans le Chumash Shemot, qu'est-ce qu'il a pas dans la paracha Pekoudé, mais c'est dans la paracha Tetzaveh, qu'est-ce qu'a dit là-bas Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, je me présenterai D'accord. Je vais me présenter au Bnei Israël dans cet endroit, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Et il dit là-bas, Venigdash Birvodi. Et là-bas, mon kavod, donc Venigdash Birvodi, ça veut dire là-bas, mon kavod sera sanctifié. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, Al tikre Birvodi, et là, Bimchoubadi. Ça veut dire quoi que mon kavod sera sanctifié? Rashi dit non, faut pas dire Kevodi. Il faut dire Mechoubadi. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, je me sanctifierai pas par mon honneur, je me sanctifierai par ceux que j'ai envie d'honorer. Par ceux qui me sont chers. Comme ça dit Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu dit, dès le départ, dès que Dieu avait dit Venigdash Birvodi, tout de suite j'avais compris que ça veut dire quoi? Dieu ne se sanctifie pas par son honneur, ça veut rien dire. Il se sanctifie par ceux qu'il a envie d'honorer. Bon. Alors, à Marley Moshe et Aaron, Moshe dit Aaron, donc Rashi nous raconte le dialogue. Aaron, achi, Aaron, mon frère, Yodé Haïti, je savais déjà depuis quelque temps, Sheit Gadesh, Abaïd, Bimudav, Shelmakom. Il dit, je savais que le Beth Amikdash allait être sanctifié par des gens qui sont chers à Dieu, par des gens que Dieu a envie d'honorer. Vaïti savour, et je pensais, d'accord, en toute humilité, je pense que les deux seules personnes qui étaient aptes à ça, Obi, Obecha. Deux seules personnes qui sont aptes à ça, c'est ou toi ou moi. Enfin, ou moi ou toi.
Eh ben, je me trompe.
D'accord? Maintenant, il dit, Arshav, Roéani, maintenant je vois, Shem Gdolim, Mimeni ou Mimeka. Maintenant je vois que eux, tes deux enfants, ils sont plus grands que moi et que toi, et il y a même une version qui rajoute que moi et que toi réunis. D'accord? Bon. Là déjà on voit que c'est
là,
pas si simple.
C'est aussi la consolation.
Ah voilà, non, encore une fois j'ai dit, ça n'existe pas ça. Ça pour nous, du pipeau, ça n'existe pas.
Mais c'était une réflexion de Moshe.
Parce qu'après il va se dire, attendez, parce qu'après il va réfléchir, il va se dire, attendez, qu'est-ce qu'il a dit mon frère? Mais dis-moi, il s'est moqué de moi ou quoi? Bien sûr. Mais Dieu préserve, quand vous avez, Dieu préserve, je sais pas moi, quelqu'un, dans la famille de quelqu'un qui s'est suicidé. Vous venez les voir, vous dites, non, vous êtes en vérité, non, c'est... Il dit, mais attends, mais taisez-vous. Tu vas commencer à raconter. Tais-toi, c'est mieux. Tu vas commencer à raconter des histoires. D'accord? Les Avdil, ça n'a rien à voir, mais c'est évident pour nous que Moshe Rabbeinu, ce qu'il dit, il le pense.
Pourquoi il se passe pour dire ça?
Très bonne question. Je voudrais juste lire un dernier point dans Rashi, et après on aura le commentaire. Alors, on va prendre deux lignes avant la fin. D'accord? Deux lignes avant la fin de la colonne de droite. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Donc, Ve'al Pene Kolam et Kaved, deux lignes avant la fin, Rashi dit, Kishé Akadosh Baruch Hu Osedin Bat Tzadikim, lorsque Dieu fait un din envers des Tzadikim, vous voyez Rashi, là, carrément, plus on avance, plus il rajoute, hein. Lorsque Dieu fait un din contre des Tzadikim, Mitiare, du coup, grâce à ça, on a peur de Dieu, on craint Dieu, ou Mitale, ou Mitkales, le nom de Dieu s'élève et le nom de Dieu est loué. D'accord? C'est ce que Rashi nous explique ici. Je m'arrête ici. Pour le psychisme dans Rashi. Donc de là, on voit quoi? Que pour Rashi, c'est évident que ce qui s'est passé, c'est pas si négatif que ça. C'est clair ou pas? On l'a vu, là. C'est-à-dire, on a lu, dans la première partie de notre cours, on a lu d'abord les psukim. Dans les psukim, on a vu qu'a priori, ce qui s'est passé, c'est négatif. Et qu'il y a même eu des conclusions qui ont été tirées dans la paracha Haremot. Conclusions suite à ce qui s'est passé.
C'est la première fois. D'accord? Que les gens sont tués pour les sanctifier.
Très bien. On lit Rashi, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit quand on lit Rashi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que non, c'est pas si simple. Rashi nous dit que d'abord, c'est pas très clair pourquoi ils sont morts. Pas forcément comme on a compris dans le verset, numéro 1. Numéro 2, on apprend qu'apparemment c'est les tzadikim et que Moshe Rabbeinu est en train de louer Aaron Sofra et lui dit, écoute, tu sais, je me posais la question qui allait sanctifier le nom de Dieu, c'est soit moi, soit toi, et là maintenant je vois que tes deux enfants sont plus forts que nous deux réunis. Ça veut dire qu'apparemment c'est des grands tzadikim, que ce qu'ils ont fait, Kolakavot, bravo. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà.
D'où on sort ça? Pas possible, il y a un problème.
Okay,
d'accord? Alors je vais vous lire dans les mots le commentaire du Or HaChaim HaKadosh. Très joli commentaire. D'accord? Le Or HaChaim HaKadosh, alors c'est très long, hein, c'est dans la paracha Aharemot, et il explique ça très longuement. Mais je vais vous dire juste un résumé. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, Motam Shelbnei Aaron, la mort des enfants de Aaron, Nigram, Mitshukatam Aaza Leitkarev El Hashem. Il va nous rajouter un élément qui est très important. Il dit qu'en vérité, pourquoi sont morts les enfants de Aaron? Puisque les enfants de Aaron avaient une passion, à ce moment-là, de vouloir s'approcher de Dieu. Ils avaient la soif. Et quand on a la soif, et bien du coup, on va se permettre des choses qui sont pas forcément interdites, mais qu'on se doute que peut-être, on ne nous le permet pas. On prend des risques. D'accord? On prend des risques. D'accord. Donc ça, c'est le premier point que le Rahim HaKadosh nous apprend. Il nous dit, tu sais, Nadav Aviou, à ce moment-là, c'est pas simplement qu'ils sont rentrés, ils étaient sous. C'est vrai qu'ils étaient sous. Mais lorsqu'ils étaient sous, lorsque le vin y rentre, c'est en vain de pourrim, non? Lorsque le vin y rentre, le secret y sort. Et c'est quoi le secret qui est sorti?
Pour faire ça plus dangereux.
D'accord? C'est quoi le secret qui est sorti? Le secret qui est sorti, c'est que les enfants de Aaron ont dit, on a envie de s'approcher de Dieu. Ils voulaient toujours le faire, mais toujours ils se retenaient. Mais là, comme il y a eu le secret qui est sorti, comme il a dit M. Fusion, on ne perçoit plus le danger. Ils ont marché droit devant. Bon.
C'est du zèle.
Non, c'est pas du zèle.
Normalement, ça reste spirituel.
Ça veut dire quoi, spirituel?
Ça veut dire quand quelqu'un il a cet élan-là, comme ça, c'est spirituellement...
Spirituel, bonne question. Donc pourquoi les kétorettes? Très bien, on va y arriver.
Et là, ça s'est passé physiquement.
Avec les kétorettes. Donc pourquoi les kétorettes? C'est ça le fond de la question. Pourquoi les kétorettes?
Mais les kétorettes, c'était pour allumer le...
Attendez, mais pourquoi les kétorettes? C'est la question qui est posée, il dit, mais non, normalement, mais là, quand une personne a une soif de s'approcher de Dieu, c'est spirituel, il n'y a pas besoin de faire le malin et de rentrer. Alors attendez. Je veux dire le Haïm Akadosh. Écoutez bien. Il dit, Teshuka Sheba Rabahem, c'était une passion qui brûlait en eux, ad kelot an nefesh, à tel point qu'ils étaient prêts à donner leur âme pour ça. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils prenaient des risques. Mais attention, n'oubliez pas que jusqu'à présent, jamais ça n'avait été interdit explicitement. Ça veut dire qu'on savait que le Kodesh HaKodashim ne rentrait pas n'importe quand, n'importe comment, on le savait, mais jamais ça avait été interdit explicitement.
Avant, il y avait marqué, d'accord, ils ne mourront, s'ils font ça et ça, ils ne mourront pas.
Voilà.
Ça veut donc dire que s'ils ne le font pas, ils meurent.
Oui, mais ce n'était pas interdit explicitement. On savait que c'était dangereux, on savait qu'il fallait faire attention, d'accord. Mais bon, on se disait que peut-être, si celui qui veut prendre des risques, c'est à ses risques et périls. Attendez, il continue le Rechaïm HaKadosh. Et donc, de là on comprend quoi? De là on comprend que motam shel bnei Aaron, que la mort des enfants de Aaron, ça qu'on comprend du Rechaïm HaKadosh, lo haya biprinat onesh, c'était pas une punition. Alors c'était quoi? Et la adraba au contraire, ou nava migodel titkatam ou mimaalatam aniflam shel avodatam. Extraordinaire comment il explique. Il dit, les enfants de Aaron sont morts, ça c'est un fait. Mais c'est pas une punition. La Torah n'a jamais dit qu'ils ont été punis. La Torah n'a jamais employé le terme punition. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? D'accord? Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Allez, messieurs, se réveillez. Qu'est-ce qu'a dit la Torah?
C'est le cheminement normal. Leur âme, elle est vraiment à côté de Dieu.
Alors, mais qu'est-ce qu'a dit la Torah? On va relire ensemble le Pasuk Yud. Venez, on va relire ensemble le Pasuk Yud. Attendez.
Ils ont offert leur...
C'est pas moi, c'est Orchaïm. Moi, j'ai rien dit, moi. Venez, on va relire ensemble le Pasuk Yud. Vaïkrou, Bni Aaron, Nadav, Aviou, Ishmartato. Nadav, Aviou a pris chacun son encensoir. Vaïtnou, Vaen, Esh, ils ont mis dedans du feu, donc des braises. Vaïasimou, Alek, Ketoret, sur ces braises, ils ont mis une poudre de Ketoret. Vaïakrivou, Lifne, Hachem, ils ont offert devant Dieu, Esh, Zara, un feu étranger. Hacher, Lotiva, Otam, un feu qu'on leur avait pas ordonné. Attendez, ça veut dire quoi qu'on leur a pas ordonné? C'est positif ou négatif qu'on leur a pas ordonné?
Négatif.
Apparemment, c'est négatif, le rabbi dit pas du tout, il dit c'est positif. Quand quelqu'un, il fait quelque chose de son propre chef, alors qu'on lui a pas demandé.
C'est quoi, c'est une...
Au contraire! C'est beau!
Oui, mais c'est un Zara.
Non, attendez, oui, bien sûr Zara.
Ouais, expliquez-moi. Mais toi, c'est Zara.
Bien sûr étranger.
On l'aura pas ordonné.
Pourquoi étranger? Parce que c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas quelque chose qu'on a ordonné.
C'est vraiment du zèle.
C'est du zèle, mais du bon zèle. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il dit le verset après? Vatetsehesh milifne Hachem, le feu est sorti de devant Dieu. Est-ce que c'est écrit que Dieu s'est énervé, Dieu a dit je vais le punir? Parce qu'en général, dans des cas comme ça, toujours qu'est-ce qu'on lit dans la Torah, par exemple dans le cas du Vaudor, etc. Chaque fois, on nous raconte que « Vaïcharaf Hachem, Dieu s'est énervé, etc. » Et à aucun moment, on a vu que Dieu s'est énervé. Jamais. C'est pas écrit. On nous raconte seulement qu'il y a un feu qui est sorti qui les a consumés. Alors nous, on a compris, ouais, mais on voit les choses négativement. On a dit « Ah, un feu qui est sorti, c'est... » Dieu a dit « Vous avez amené un feu négatif, un feu interdit, on vous brûle par le feu. » Le Rachaïm Akadosh, il dit pas du tout. Il dit « C'est pas une punition. » C'est pas une punition. Il savait qu'il prenait des risques. Il savait qu'il prenait des risques, sauf qu'à ce moment-là, ces risques n'étaient pas forcément interdits. À ce moment-là, on démarrait encore en tant que peuple, et ben eux ils se sont dit, peut-être on va mourir, c'est pas grave, au pire on meurt pour Dieu. Ils savaient pas encore ce qu'on va apprendre dans la paracha Harimot, que Dieu nous a appris qu'il veut pas qu'on meure. Que Dieu nous dit, je veux que vous restez le plus longtemps en vie possible, je ne veux pas que vous mouriez pour moi. Je veux que vous mouriez pour moi seulement dans les cas dans lesquels je vous l'ai demandé explicitement. Par exemple, pour l'Avodah Zara. Encore pour les trois Averot capitales. Et sur les autres avérants, Dieu dit, je ne veux pas que vous mourrez pour moi. On ne le savait pas encore, ça. On ne le savait pas. Donc, dit le Rachaïm HaKadosh, il dit, c'est pas une punition. C'est pas une punition. Et qu'au contraire, quand on dit qu'ils ont amené un feu étranger qu'on ne leur avait pas ordonné, nous, on a compris étranger dans le sens négatif. Mais étranger, c'est pas forcément négatif. Étranger, ça veut dire quelque chose d'étrange qu'on n'avait pas l'habitude. Et quand on dit qu'on ne leur avait pas ordonné, ça veut dire que, au contraire, c'est un bien pour eux. Que sans qu'on leur ordonné, ils ont une envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ah, maintenant, je vais répondre à la question de Charlie. Quand, dans les quelques minutes qui me restent. Pourquoi les Ketorets? Pourquoi ils ont emmené les Ketorets? Pourquoi ils ne sont pas juste rentrés?
C'est leur job, les
Ketorets. Non, il n'y a pas de job, les Ketorets. Pourquoi ils ont emmené les Ketorets?
Les Kohanim, ceux qui ont les Ketorets.
Non, les Ketorets, normalement, c'est... D'abord, jamais on rentre les Ketorets dans le Kodesh Kodashim. On le fait une fois par an. Le Yom Kippour. Non. Ça, on le savait qu'il fallait le faire à Yom Kippour. Maintenant, eux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on connaît de plus sacré? Ce qu'on fait à Yom Kippour, on va le faire aujourd'hui. D'accord? Pourquoi les Ketorets? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les Ketorets? Alors, c'est très simple. Jusqu'à présent, on avait offert des corbanotes. Et on avait dit que grâce à qui les corbanotes avaient été acceptés? Grâce à leur père, à Aaron. D'accord. Eux, ils ont offert les Ketorets. Quelle est la différence entre Korban et Ketorets? Dans le mot Korban, on a le mot Karov. Karov en hébreu qui veut dire proche. Ça veut dire que le Korban permet à un homme de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ketoret vient de l'araméen Kesher. Kesher en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire le lien. Ça veut dire pas seulement on s'approche de Dieu, mais carrément, on s'attache à Dieu. Maintenant, avec ça, on va comprendre pourquoi Nadav Aviou, ce qu'ils ont fait, c'était, il y avait une grande cavana qui était derrière. Ils savaient que, ce jour-là, on avait déjà offert des sacrifices qui avaient été acceptés. Ça veut dire que Korban, l'étape de s'approcher vers Dieu, bah, au Hachem, on l'a passé. Mais les enfants de Aaron nous disent, nous, on veut plus loin que ça. Nous, on veut Ketoret. Nous, on veut Kesher. Nous, on veut pas seulement s'approcher de Dieu. On veut s'attacher à Dieu. On veut aller plus loin que ça. On sait que normalement, ce niveau-là est permis seulement le jour du Yom Kippour. Mais étant donné que maintenant, on est dans l'ambiance, et surtout, certainement, enfin, je sais pas pourquoi ils ont bu. Mais moi, je me dis que peut-être ils ont bu parce que c'était la Simra. C'est pas écrit, hein, je l'ai pas lu écrit. Mais, hein, peut-être on l'a... Je pense qu'ils ont bu parce que c'était la fête. Tout le monde était content que le Corban avait été accepté. N'oubliez pas que ce Corban qui avait été accepté, ça faisait 8 mois qu'on l'attendait. C'était pour eux le symbole du pardon de la faute du veau d'or. D'accord, donc, je pense que, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont bu. Donc, dans l'euphorie, dans la Simra, ils se sont dit, on a fait Corban, on s'est déjà approché de Dieu, très bien, on a déjà fait la première étape, mais maintenant, on veut faire Kesher, on veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi s'attacher à Kadosh Baruch Hu? Explique le Rabbi, ils sont arrivés à un tel niveau qu'il y a des fois des choses, qu'on arrive à un niveau dans lequel on n'a pas besoin de nous demander la chose. Mais c'est comme, dans les premiers, quand on commence le mariage, quand on commence à s'approcher, alors bon, j'ai besoin de dire à ma femme ce que j'aime, ma femme a besoin de me dire ce qu'elle aime, mais comme ça, avec le temps, chacun, il sait ce que l'autre préfère. Mais après, avec le temps, quand il y a Kesher, quand il y a un lien, t'as plus besoin de me dire ce que tu veux, ce que je veux, c'est automatique, je sais déjà ce que tu veux. Tu sais déjà ce que je veux. Et Nadav et Aviou, pourquoi ils sont à un niveau qui a dépassé Moshe Rabbeinu et Aaron de loin? Parce que eux, ils sont arrivés à un niveau de Asher Lotiva Otam. Ils sont arrivés à un niveau que, ils ont eu le sentiment qu'on doit faire quelque chose pour Dieu, même si on ne nous l'a pas ordonné. Ils sont arrivés à un niveau de Kesher. Alors, c'est vrai que concrètement, l'acte qu'ils ont fait était pas bon. Pourquoi? Mais ils le savaient pas. L'acte qu'ils ont fait était pas bon parce que Dieu veut nous dire, vous voulez m'approcher, vous voulez vous attacher à moi, faites-le, mais pas en donnant votre vie. Mais ça, ils ne le savaient pas. C'est parti d'une bonne kavana, mais ils voulaient s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Par la suite, dans la paracha, Haremot, le Zohar dira que celui qui veut s'attacher avec Kadosh Baruch Hu, comment il s'attache avec Kadosh Baruch Hu? Au travers de l'étude de la Torah, principalement, et aussi par les mitzvot, surtout au travers de l'étude de la Torah. Dieu dit, quand vous étudiez ma Torah, vous vous attachez avec moi puisque vous étudiez la même chose que moi. C'est comme ça qu'on s'attache avec Dieu. Mais ça, on ne le savait pas. Donc c'est pas une punition. C'est pas du tout une punition. Voilà pourquoi les enfants de Aaron voulaient offrir les Ketorets. Parce qu'ils voulaient s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ils voulaient passer à l'étape suivante, l'étape à laquelle, c'est pas seulement je me suis approché de toi. Tu n'as même plus besoin de me demander Kesher, Ketoret, je veux m'attacher avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on a lu dans Rashi? Moshe Rabbeinu a dit, je savais que le Beth Amikdash allait être sanctifié je savais que le Beth Amikdash devait être sanctifié, mais par quelqu'un qui est cher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on a compris pourquoi. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Jusqu'à présent, il y avait Korban, mais Korban, c'était pas suffisant. C'était seulement, on s'approche, on s'est pas encore attaché. Moshe Rabbeinu, il savait que Dieu lui avait dit que le Beth Amikdash allait être sanctifié, qu'il allait avoir quelque chose de fort qui allait se passer. Il allait avoir un kécher, un lien. Moshe Rabbeinu a dit, je pense que ce sera soit par toi, soit par moi. Enfin, soit par moi, soit par toi, dans l'ordre qu'il a dit. Mais, Moshe Rabbeinu a dit, maintenant que j'ai vu que c'est tes enfants, j'ai compris que c'est eux qui avaient la capacité de faire les Ketoret. Alors maintenant, c'est quoi les conclusions qu'on a tirées de cette histoire? Très simple. Les conclusions qu'on a tirées de cette histoire, c'est que Kadosh Baruch Hu nous apprend que ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse Dira Bet Artonim, une demeure ici-bas. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres religions dans lesquelles on pousse les gens à quitter la matière. À quitter la matière le plus tôt possible, et s'il faut même mourir, C'est pas, bon, pas kamikaze, pas sans aller jusqu'à là. Mais ça veut dire à quitter la matière, ça veut dire aller dans des forêts, etc. À quitter la matière le plus possible, et s'il faut même donner sa vie, ben on donne sa vie. Et ouais. Apparemment, écoutez bien, apparemment, jusqu'à cette histoire-là, on pensait comme ça. Ça veut dire que Nadav et Avihu, selon leur Rahim Akadosh, c'est des gens qui ont été appréciés. C'est des gens qu'au contraire, on a dit, t'as vu, ils voulaient s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ils voulaient... C'était le point d'orgue, d'accord ? C'était le point d'orgue de l'inauguration du Mishkan. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'a dit Rashi après ? Qu'est-ce qu'a demandé Moshe Rabbeinu à Michel et à Elsafan ? Tout de suite, il leur a dit, prenez les cadavres, il faut pas que la fête s'arrête. Pourquoi il faut pas la fête ? Comme ça, il est tout de suite après, toujours dans le Shlishi. Pourquoi il faut pas la fête ça ? Maintenant, on comprend. Parce qu'on a compris qu'en vérité, Moshe Rabbeinu a compris que ce qui s'était passé était bien. Il y avait un message qui était là. Sauf que, c'est quoi la chose qu'on n'avait pas compris ? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, on ne savait pas encore. C'est qu'Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous qu'on donne notre vie pour lui. Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on vive pour lui. C'est pas la même chose. Il y a d'autres religions dans lesquelles on donne sa vie pour Dieu. Chez nous, on vit pour Dieu. Il y a seulement les cas dans lesquels Dieu nous a demandé explicitement de donner la vie. Là, on va donner la vie. Mais sinon, c'est pas la vie qu'on donne pour Dieu. On donne pas sa vie pour Dieu. On vit pour Dieu. Ça, Nadav et Avihu le savaient pas. Et la Kavana, ils ont une très bonne Kavana. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit à son frère, c'est eux qui ont sanctifié le Mishkan, c'est grâce à eux qu'il y a eu l'étape Kesher des Ketoret.
Mais ils l'ont pas fait pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont pas fait pour mourir, ils l'ont fait pour faire les Ketoret.
Non, ils l'ont fait.
Ils savaient pas qu'ils allaient mourir.
Ils l'ont fait en prenant des risques. Vous savez.
Comment
ils pouvaient savoir? Parce qu'on l'a déjà lu dans la paracha. Dans la paracha Vayakhel, on l'a déjà lu, c'est écrit qu'on sait qu'on rentre pas n'importe comment et que si on rentre n'importe comment, on risque de mourir. Il y avait qui sont des clochettes. On savait ça. Que si un Kohen avait une mauvaise cavane à l'intérieur, il risquait de mourir. Mais on va dire que les clauses n'étaient pas très claires encore. Et c'est pour ça que c'est pas une punition, au contraire. Ils sont morts pour la bonne cause. Mais de là, nous, on apprend quoi comme enseignement ? Que nous, on ne meurt plus pour Dieu, on vit pour Akadosh Baruch Hu.
Il y a des religions.
Oui, on meurt
pour Dieu. Il y a des athlètes qui s'enferment dans des cloches et ils restent, autrefois ils restaient là jusqu'à
bien sûr,
mourir.
Bien sûr, bien sûr. Ça part d'une bonne intention.
Hein, nous, on dit des choses.
Non, ça part d'une bonne intention. Mais chez nous, on comprend qu'il faut vivre pour Dieu.
Les deux frères étaient de connivence.
Ils étaient Bessimra, ils ont dit attends, il faut passer à l'étape suivante, qu'est-ce que c'est?
Ils sont entraînés mutuellement.
Enfin, il y a la question de Lionel, parce que j'ai fait le cours pour lui, je devais faire autre chose, mais.
Les deux cousins, ils viennent
prendre les
Kadish. Oui. Alors attends, juste, on fait Kadish.